Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats, alors on commence un petit peu en retard, on a pris du temps avec le rugby, mais c'était intéressant, ça vous a passionné. On va débattre aujourd'hui avec Patricia Balm. Bonjour, communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Naïma Mfadel, bonjour, essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Vous êtes co-auteur avec Olivier Roy de « Et tout ça devrait faire d'excellents français » aux éditions du Seuil. Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Et Jackie bonjour. Isabello, bonjour, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour, bonjour à Valérie. Vous. Jean Castex, positif, le gouvernement pas assez prudent, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, tout le monde s'en donne à cœur joie, mais comment, on nous a dit que le vaccin, machin, ça marchait, mais ça marche pas. Voilà, on va en parler. Chaos aux Antilles, une possible contagion de la contestation, comment en sortir. Et puis Éric Zemmour, nouveau sondage, et un sondage pas très encourageant pour lui. On reviendra sur tous ces sujets avec vous dans un tout petit instant. Commençons avec coup de cœur, coup de gueule. Patricia, c'est un coup de cœur ?
Eh bien, c'est un coup de cœur pour un très beau livre à paraître jeudi aux éditions Bouquins. C'est le livre de Catherine Ney, qu'on ne présente plus d'ailleurs.
Oui, grande éditorialiste, grande journaliste qui publie ses mémoires.
Pas tout à fait ses mémoires, c'est une analyse de la vie politique de Chirac à aujourd'hui, à Macron.
Ça tombe bien.
Le livre s'appelle « Tu le sais bien, le temps passe ». Et c'est 25 ans de vie politique, c'est le deuxième tome de ce livre qu'elle publie maintenant. Bon, c'est un livre bourré d'anecdotes. D'ailleurs, on apprend que Bernadette Chirac s'était tordu la cheville le jour de l'arrivée à l'Élysée sur le tapis rouge. Il y a beaucoup d'anecdotes. Nicolas Sarkozy a fait une très belle tribune dans Le Point, dans laquelle il dit n'est pas Catherine Ney qui veut. Et je dirais juste une petite phrase à propos de François Hollande que j'ai relevée dans le livre. On s'attendait à quelque chose qui n'est jamais venu, et lui a toujours cru que les choses finiraient par s'arranger. Ou bien un pessimisme trompeur, ou une insondable naïveté, sa bonne étoile n'était qu'une étoile filante. Voilà le style de Catherine Ney.
Elle écrit très bien, en plus.
C'est à dévorer, c'est un bijou, ce livre. Ouais.
Donc, et puis qui renseigne sur la vie politique, parce qu'elle a évidemment été au cœur de cette vie politique pendant de nombreuses années.
Oui, puis une analyse très juste des personnalités politiques.
Absolument.
Voilà, c'est une grande dame du journalisme.
Catherine Ney, qu'elle donne des éléments sur les 35 heures, non ?
C'est dans absolument, ah, oui, disant que l'idée de venir pas de la gauche
est exceptionnelle.
Magnifique. Ouais.
Absolument. Yves Damécourt, c'est un coup de gueule ?
Oui, un coup de gueule. Parce que hier, RTE, donc qui s'occupe de l'approvisionnement en électricité de la France, a annoncé que la France allait être placée en vigilance renforcée cet hiver, avec un risque de manque d'électricité. Ce manque d'électricité, il est dû à la politique de gribouille de nos gouvernants depuis un certain nombre d'années, la fermeture de Fessenheim, et puis vient s'ajouter à ça le coronavirus qui a fait que les travaux de maintenance de nos réacteurs ont été décalés dans le temps, et donc il y aura entre 5 et 15 réacteurs en maintenance au mois de janvier-février, et donc on va manquer d'électricité. Enfin, c'est incroyable. Décidément, nos gouvernants n'ont pas compris grand-chose. Il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus quel ministre de l'Industrie disait « Il faut continuer à entretenir nos centrales nucléaires, à prolonger leur durée de vie, parce que sinon, un jour, on sera obligé de choisir entre la maintenance et la production. »
Absolument.
Eh bien, nous y sommes. Voilà, c'est mon coup de gueule.
Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas, vous êtes d'accord, Jacques?
Je suis complètement d'accord. Ouais. Je vous avouerai quand même que je suis rassuré par les annonces de Macron, même si ça ne l'a pas empêché de poursuivre ce qu'avait engagé François Hollande en faveur de Fessenheim. Mais M. Damécourt connaît bien, pour les relations qu'il peut avoir avec le think tank Sinopia, les affaires militaires, on ne fait pas avancer nos sous-marins nucléaires qui nous permettent quand même, quoi qu'il se passe avec les Australiens, d'être une grande nation avec des éoliennes qui sont perchées sur le cul du sous-marin. Voilà pour cette petite anecdote un peu bête, mais évidemment que la maîtrise de ces énergies, l'abandon de certaines technologies qui ont été confirmés sur une catastrophe. J'espère qu'on les relancera parce que ça peut déstabiliser considérablement l'espace public que d'abandonner cette énergie que nous maîtrisons parfaitement.
Absolument. On se retrouve dans un petit instant pour commencer les débats avec vous. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats dans le 10h midi avec aujourd'hui Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Naïma M. Fadel, essayiste, spécialiste des quartiers populaires, co-auteur de « Et tout ça devrait faire » d'excellents français avec Olivier Roy aux éditions du Seuil, Patricia Balme, présidente fondatrice de PBCom International, vous êtes communicante, et Jackie Isabello, communicant également et cofondateur de l'agence Coriolink. Jean Castex, positif, le gouvernement, les membres du gouvernement en général sont-ils assez prudents? Évidemment, on s'interroge. Il avait été vacciné, il avait reçu les deux doses, il est positif. Chaos aux Antilles, une possible contagion, comment en sortir? Et puis Éric Zemmour est-il dans un trou d'air? Arrivera-t-il à relancer sa campagne en annonçant sa candidature dans les jours qui viennent? On parle du 29 novembre en ce moment. Bref, tous ces sujets avec vous. Naïma M. Fadel, votre coup de gueule?
Alors, mon coup de gueule concerne l'interview donnée par Ramayad à l'Express, où Madame Ramayad crache sur la France, qu'elle accuse d'être raciste, qui dit qu'elle est micro-agressée par la statue de Colbert quand elle vient en France. Et je trouve insupportable cette cancel culture, ce wokisme qu'elle promeut d'ailleurs dans cette interview. Et ces gens-là qui viennent cracher sur un pays qui l'a nommé, faut le rappeler quand même, ministre, après seulement avoir été naturalisé, seulement 10 ans après avoir été naturalisé. Je précise aussi en passant que si Beth Ndaye a été aussi ministre de la France seulement un an après avoir été naturalisée. Donc je trouve vraiment insupportable ces personnes qui crachent dans la soupe, crachent sur la France et qui sont dans la racialisation de la société. On a combattu justement les races et on a promu l'universalisme. Mais aujourd'hui, on assiste à des personnes qui viennent en fait vouloir tout déboulonner. La France, c'est un bloc. La France, c'est un pays effectivement fait de périodes lumineuses et de périodes beaucoup plus sombres, mais c'est un bloc. Donc quand on épouse la France, si je puis dire, quand on fait souche avec la France, eh bien on accepte toute l'histoire de France. Vraiment de là-bas, des États-Unis, mais ça ne m'étonne pas en même temps, parce que les États-Unis ont eu cette culture de nous... exporter un petit peu leur idéologie wokiste. Et je voudrais aussi rappeler, moi qui travaille sur les quartiers, que les États-Unis, via leurs ambassades, promeuvent aussi des programmes en direction des quartiers, des jeunes des quartiers qu'ils identifient, des personnes dites de la diversité, pour les endoctriner dans cette idéologie cancel culture et wokiste. Donc c'est insupportable, et je pense qu'aujourd'hui, la France doit se protéger, et qu'on aurait même intérêt, alors je le dis sincèrement, à interdire la cancel culture, et j'en appelle au ministre Blanquer pour que protéger nos écoles et nos universités et nos grandes écoles de cette idéologie qui est extrêmement néfaste et qui met à mal la cohésion nationale.
Enfin, on est un petit peu mou sur le sujet, parce que c'est quand même une tyrannie de minorités qui vont là-dessus. C'est vrai que c'est absolument sidérant. Je partage votre avis de vouloir revisiter la culture, de vouloir revisiter l'histoire à l'aune de notre regard, de nos émotions, puisqu'aujourd'hui tout est émotion. D'aujourd'hui, c'est Patricia.
Il faut dire que Ramayad, que je connais, a un caractère très rebelle. C'est sa nature. Je ne la défends pas, mais j'explique le caractère de cette femme qui a été ministre, et on se souvient quand Kadhafi est venu en France et qu'elle a fait un scandale. Donc c'est une rebelle. Maintenant, elle s'est aussi racialisée elle-même, depuis le début, et le tout début de sa vie politique. Et moi, je me souviens d'un meeting de Nicolas Sarkozy, où il lui avait donné la parole, c'était une illustre inconnue, c'est ce qu'il a révélé, et elle commence son discours en disant il m'a fallu montrer patte blanche pour faire ce discours et arriver à monter sur scène. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, c'est malheureusement
sa culture.
Elle
allait voir un psy, hein.
Certains ont ironisé en disant, mais elle n'a pas de comment elle a dit, un pincement au cœur, une micro-blessure quand elle habite à Washington, qui est quand même la ville d'un esclavagiste terrible esclavagiste, George Washington. Donc, qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle quitte cette ville et ce pays qui a esclavagisé.
Et après avoir eu des bureaux au Sénat pendant pas mal d'années quand même, où il y a quelques statuts qui auraient pu irriter
et oui.
Sa bon, fonction professionnelle
non, je
d'alors.
Pense vraiment qu'il y a, je vais être honnête avec vous, je pense qu'il y a un business autour de ça, malheureusement.
Oui, absolument. C'est, oui, bah, la preuve, c'est qu'on en parle. Oui, Yves Damécourt.
Oui, je voudrais simplement rappeler que Ramayad est issu d'une famille puissante du Sénégal. Exactement. Et que si elle veut revisiter l'histoire, elle peut aussi revisiter l'histoire du Sénégal. Parce que le commerce triangulaire, il était organisé entre le Sénégal et le Nouveau Monde. Et au Sénégal, les familles puissantes vendaient les esclaves aux esclavagistes. Et donc, si elle est indignée par une statue de Colbert, il faut qu'elle retourne au Sénégal et qu'elle s'indigne sur un certain nombre de lieux emblématiques de ce commerce triangulaire. Et donc, on ne peut pas voir l'histoire d'un seul côté, il faut la voir complètement. Peut-être qu'elle peut se rendre d'ailleurs à Pointe-à-Pitre au musée de l'esclavage, qui a été inauguré par François Hollande, et qui parle de tous les esclavages, et de l'histoire des esclavages, notamment du Sénégal vers l'Arabie, avant même que les Européens ne commencent le commerce triangulaire. Merci. Donc il faut voir tout ça dans son ensemble.
Ouais. Un mot, alors là c'est aussi sur une forme de politiquement correct, c'est en Vendée où la statue de Saint-Michel a été installée devant une église et donc nous avons les libres penseurs qui s'opposent à cette statue au Sable d'Olonne. C'est... Bon, voilà, certains disent aussi il y a des indignations sélectives, on peut être libre penseur pour la laïcité, il y a des causes qui sont peut-être un petit peu plus importantes à défendre en termes de laïcité, me semble-t-il.
En fait, il y a une jurisprudence qui est très claire là-dessus, donc il y a eu le problème à Plohermel avec l'implantation d'une statue de Jean-Paul II, par exemple, et donc l'implantation des... La loi de 1905, elle protège tous les lieux de culte, les calvaires, les statues, les églises qui étaient là avant 1905, et elle ne permet pas l'installation de nouveaux édifices après 1905. Donc la question est de savoir si cette statue de Saint-Michel, qui est posée devant une église Saint-Michel, est une statue qui a été restaurée et qui a été reposée là, ou si c'est une statue qui a été inaugurée et posée là. Après ça, le maire de Plohermel avait privatisé une parcelle pour pouvoir mettre dessus la statue de Jean-Paul II. Et une fois que c'est le domaine privé de la commune, l'installation est autorisée. Donc il y a aussi des façons de contourner la loi, comme c'est souvent le cas en France.
Oui, mais le maire, en tout cas, visiblement, était tout à fait d'accord. Mais on va lire plus en avant ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on est, encore une fois dans une espèce de tyrannie.
L'histoire des crèches de Noël. Ouais. Hein. Je veux dire, on a connu tous les crèches de Noël.
Approchez-vous.
C'était un vrai plaisir.
Ouais.
Même moi qui ne suis pas chrétienne, je trouvais ça formidable. D'ailleurs, il y a trois ans, à Dreux, l'église Saint-Pierre, le curé avait eu la bonne idée d'installer une crèche de Noël. Je vous assure que toutes les populations sont venues voir, quelle que soit leur religion.
Voilà, mais le maire a eu cette formule assez drôle, tentant sans doute de dégonfler un peu cette polémique ridicule en disant... dans le quartier de Saint-Michel, sur la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, il y a une statue de Saint-Michel.
Quelle histoire. Effectivement. Je voulais faire
la rhétorique pour ça, au moins, a le talent de montrer que ça...
Un coup de cœur pour la nouvelle campagne des Restos du Cœur qui démarre aujourd'hui, hélas. 37e campagne. Il y a plus d'un million, 1 200 000 personnes qui ont été accueillies l'année dernière. 142 millions de repas distribués cette année. Ça ne devrait pas s'arranger, donc... courage et soutien à
c'est triste
ceux qui...
que ça existe
oui, c'est
encore.
Ça. C'est pour ça que j'ai dit hélas.
Mais
c'est,
oui.
C'est que 37 ans et que ça continue et qu'on ne...
Exactement.
Et que ça ne s'arrête pas. Et puis Christine Bouillot qui n'est pas avec nous, mais qui m'a envoyé un coup de gueule où elle a totalement raison, c'est un adolescent à Montpellier qui a été poignardé de plusieurs coups de couteau, qui est mort juste pour un regard échangé, un mauvais regard. Et je trouve qu'il faut dire, raconter, c'est, je mets des guillemets, faits divers parce que c'est un drame absolu. Ouais. Aujourd'hui, on en est là, quoi. Un différend entre jeunes qui se termine à coups de couteau, cette violence qui est là, qui.
Oui, depuis West Side Story, En tout cas, la culture, le cinéma met en scène des choses qui arrivent depuis très longtemps. Oui. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit, Valérie. Oui. Moi, je milite depuis très longtemps pour qu'on accorde une reconnaissance plus importante, et notamment à l'occasion de la date de son décès à Coluche, qui est décédé le 19 juin. On cherche à panthéoniser des gens qui ont fait des choses exceptionnelles. On aurait intérêt à se dire, peut-être faudrait-il un peu plus aller vers des personnages récents, pourquoi pas, pour saisir un public de jeunes.
Coluche au Panthéon, c'est ce que vous êtes en train de dire ?
Coluche au Panthéon, mais disons que je me sers un peu de cette image pour dire que Coluche mériterait plus que ce qu'il a aujourd'hui. Dans l'histoire de France, il a eu un parcours exceptionnel, vraiment très très atypique, avec cet acte qui n'est pas un acte organisé par l'État et autour duquel tout le monde se solidarise, tout le monde donne, que ce soit du temps ou de l'argent. Et au-delà du fait que c'est triste, c'est extrêmement utile. Et ce personnage à la fois controversé. Écoutez, il y a deux semaines, j'ai déménagé en m'apercevant que j'étais à 200 mètres de sa maison et en me disant « Tu n'es toujours pas allé voir ta maison, c'est assez scandaleux. » Voilà, j'en profite pour dire peut-être que dans 10 ans, Coluche, on se dira « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le mettre un peu plus en avant et dire à des jeunes, parce qu'il vient de nulle part, toi aussi, tu peux peut-être, à un moment, trouver quelque chose qui améliore le sort des autres. »
Allez, on va marquer une...
Et comme il s'appelait Michel, on pourrait faire Saint-Michel un peu partout.
Et bien voilà. Ce serait très drôle que le maire des Sables d'Olonne utilise ce pied de nez et remplace et par Saint-Michel Coluche.
Au nom de la liberté d'expression, qui aujourd'hui, je pense que Coluche serait censuré par pas mal de gens.
Absolument. On se retrouve dans un instant et votre coup de gueule dans un instant également, Jackie Isabello, qui va nous emmener sur notre débat sur les Antilles. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec Yves Damécourt, Naïma Mfadel, Patricia Balm et Jackie Isabello. Alors Jackie, c'est un coup de gueule.
Oui, alors j'ai osé ce mauvais jeu de mots en disant pas un coup de cœur mais un coup de peur, parce que je trouve que la situation des territoires ultramarins se dégrade un petit peu partout, et est-ce que ce ne serait pas finalement ces sujets qui pourraient déstabiliser un peu la classe politique française parce qu'il les connaît mal. En décembre, quelque chose qui est très important, c'est la situation en Nouvelle-Calédonie. On a un troisième référendum, il faut être très attentif à ce qui va se passer là-bas. Alors les gens ont découvert la relation entre la France, l'Australie. Enfin, sachez que les Calédoniens, quand ils ont un cancer, ils vont se faire soigner en Australie, par exemple. Ils vont à l'hôpital et la Sécu rembourse l'Australie. Donc on a un territoire qui nous donne une large part de notre zone économique exclusive qui va peut-être être déstabilisée. Et là-bas, les forces centripètes chinoises, notamment, essayent de déstabiliser la situation en Nouvelle-Calédonie. La Réunion, c'est pas la joie. Dans les territoires antillais, on voit bien qu'il y a des sujets qui perdurent depuis très très longtemps et qu'on n'arrive pas à endiguer, même si le gouvernement a quand même mobilisé par transfert sanitaire 300 000 euros par personne, montrant que la République française ne s'attache pas au coût, mais s'attache à la situation sanitaire des territoires. Mayotte, c'est une catastrophe, on parle de supprimer le droit du sol. Voilà, donc tous ces territoires-là, et je ne vous passe pas ce qui se passe en Polynésie, parce que les problèmes autour de la nucléarisation de la politique française, ces problèmes-là ne sont pas réglés. Et donc, nos concitoyens, là-bas, ils sont très importants. Ce sont de beaux pays. Ils apportent des valeurs qui nous permettent quand même de démontrer qu'on n'est pas les États-Unis et qu'on arrive à avoir des équipes de rugby, des équipes de foot, des équipes d'athlétisme, même si moi qui suis fan, il faudrait bien de se bouger un peu plus, un peu Black Bomber, et que c'est quand même une valeur extrêmement importante. Que ces territoires-là, pour les gens qui pensent que la France a des racines chrétiennes, et bien dans ces territoires-là, eux, ils défendent ça encore un peu plus. Et il y a de plus en plus de problèmes, et je pense que ça pourrait être extrêmement compliqué et peut-être déstabiliser un peu la campagne présidentielle, au-delà de tout un tas de sujets qui sont assez
clairs. Jacques Isabelle a parfaitement raison, ça pourrait même être le poison de la campagne présidentielle. Ce qui se passe aussi, c'est que ces territoires d'outre-mer, d'abord, il faut savoir que quand même un tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté, ce sont les territoires abandonnés de la République. Mais pire encore, il y a une opposition à la métropole qui est très très forte, et une sorte de sentiment nationaliste de l'outre-mer. Et ça va être un problème pour le président de la République. C'est un problème actuellement pour le gouvernement, parce que même le ministre de l'Outre-mer ne sait pas, hésite à s'y rendre. On lui dit de ne pas s'y rendre. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet domino ? Parce que là, c'est une petite guerre civile. certes pas encore importante, larvée dans certains territoires, mais l'effet domino, c'est quelque chose de terrible. Et la contagion de ce type de révolte est effrayante.
Et possible.
Et possible.
Exactement, surtout qu'aujourd'hui, la Martinique a
commencé... Appel à la grève.
Appel à la grève depuis hier, et que c'est en train de s'intensifier, qu'il y a des tensions aussi là-bas qui se développe, et la crainte qu'on peut avoir aussi, c'est que ça ravive le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'en réalité, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas terminé. Et ils sont beaucoup moins à manifester, mais aujourd'hui, je pense que cette contagion nous guette. Et c'est vrai que, je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à présent, le président Macron se disait, bon, c'est bon, tout va bien. Mais là, si ces tensions perdurent, ça risque de remettre en question... effectivement, le gouvernement et aussi de la suite par rapport au présidentiel.
Mmh. Yves Damécourt.
Oui, je connais assez bien la Guadeloupe, parce que j'ai habité en Guadeloupe pendant 5 ans, il y a quelques années. Et l'UGTG et la CGTG sont des mouvements d'extrême gauche. Hein, donc, il faut pas. Et aujourd'hui, on montre des images, des blocages et des exactions de ces groupes. Mais en fait, de très nombreuses Antillais ne sont pas solidaires de tout cela. Hein. Et donc, la Guadeloupe a une géographie un petit peu particulière, parce qu'elle a une forme de papillon, hein, ce sont deux îles, et toute l'économie passe sur les deux ponts qui passent sur ce qu'on appelle la rivière Salée, qui est un bras de mer qui est entre les deux îles. Et donc, il suffit de bloquer ces deux ponts pour bloquer toute l'économie de la Guadeloupe.
Et la Guyane, c'est un peu pareil aussi. Il y a ces mêmes caractéristiques. Mais au-delà des violences, moi, ce que je soulignais, c'était la situation générale.
Le
problème de la Guadeloupe, c'est aussi un problème national. C'est le problème de cet État qui veut tout décider depuis Paris et qui ne laisse pas agir les élus locaux. Il y a en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, des élus locaux qui pourraient très bien prendre des responsabilités adaptées à la situation particulière de ces îles, comme il y a dans les villes de France des maires qui peuvent prendre des décisions adaptées à leur contexte particulier. Et donc, moi, je souhaite que... on a un nouveau président à l'Association des maires de France, qui est David Lisnard, qui souhaite qu'on puisse aller vers une nouvelle décentralisation, mais pas une décentralisation... Où je te donne une moitié de compétence et je continue à contrôler l'autre moitié de la compétence. Je te donne la décision, mais je garde le logiciel qui prend la décision. Enfin, tout ça est aberrant. Il faut une vraie décentralisation avec des pouvoirs locaux. Et donc, le jour où le président de la région Guadeloupe et le président du département Guadeloupe, puisque c'est une île qui a la spécificité d'avoir deux collectivités sur le même territoire, auront des pouvoirs décentralisés, les choses se passeront beaucoup mieux. Puisqu'en fait, le ministre ne peut pas... D'ailleurs, souvenez-vous d'Yves Jégot, qui était allé en Guadeloupe au moment de LKP, il y a 10 ans, et qui était resté 10 jours à la préfecture, et qui finalement avait été rappelé en urgence par François Fillon, parce qu'il était en train d'accepter des trucs hallucinants. Ouais. Il était en train de mettre en place un SMIC plus élevé en Guadeloupe. Enfin, c'est la folie.
Je veux juste préciser à monsieur Damécourt, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça existe déjà. La Nouvelle-Calédonie a un président... la Nouvelle-Calédonie a atteint un niveau d'autonomie qui est exceptionnel. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, n'a pas, hein, ça va vous parler, la réglementation des 35 heures. Les gens travaillent 39 heures là-bas. Là-bas, en Nouvelle-Calédonie, quand quelqu'un ne peut pas avoir d'enfants, entre tribus, ils se donnent des enfants. Et ils savent qu'ils ont des parents officiels. Donc voilà, ils ont des coutumes. Ils ont un droit coutumier, le chef coutumier peut solder les différends entre les gens de la population. Il a un pouvoir de police. Personne ne le sait. Ces choses-là, on les a expérimentées. Ils ont été validés par les accords de Nouméa. On pourrait les mettre en place dans d'autres territoires parce que ce sont des choses qui fonctionnent bien au-delà des problèmes que peut avoir la Nouvelle-Calédonie avant. Mais on ne se nourrit pas de ces choses-là. Et je conclurai juste en disant... Moi, je vais vous dire, je suis scandalisé que le ministère de la coopération de l'Outre-mer soit encore à Paris. Ça veut dire quoi, ça ? Le ministre des Outre-mer, il est placé à La Réunion, il a un bureau en Calédonie, il a un bureau en Guadeloupe aux Antilles, et il ne fout pas les pieds dans la capitale parisienne une fois de temps en temps, s'il veut fêter les fêtes de Noël. Qu'on puisse accorder à ces populations-là des choses comme ça, eh bien, ce serait la moindre des choses. Aujourd'hui, on peut s'envoyer un mail, paraît-il, on peut se passer un coup de fil par les téléphones portables, on peut même faire du TikTok si on est ministre des Transports, ce serait quand même quelque chose d'assez intéressant pour être plus proche des populations.
Vous avez
comme excuse le fait que les forces policières, et donc le préfet, l'auraient dissuadé de venir tout de suite.
Oui, mais il a dit qu'il irait.
Début, il a dit qu'il irait.
Il faut qu'il aille à Saint-Lucie.
Il faut juste rappeler que cette situation de tension et d'aggravation de cette tension, elle est la résultante aussi du pourrissement de la situation.
Ah oui,
parce que ça a commencé quand même en septembre.
Oui.
Et en septembre, c'est maintenant que le ministre, le Premier ministre, parle d'une instance de dialogue, alors que il a laissé pourrir la situation. Mais vous savez, ça me fait rappeler aussi le mouvement des Gilets jaunes, rappelez-vous. Le mouvement des Gilets jaunes, vous aviez la phase 1 et la phase 2. La phase 1, effectivement, c'était bon enfant, c'était autour des ronds-points, etc. Et le gouvernement les a, rappelez-vous, méprisés. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu dialoguer avec eux. Il s'est dit, ça va se terminer en peu de temps. Et finalement, ça a donné toutes les violences qu'on a connues. Aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où, aujourd'hui, en Guadeloupe, ils s'attaquent aux soignants. Il les empêche d'aller à l'hôpital.
Moi, je voudrais juste poser une question à Yves Damécourt, puisqu'il a vécu là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui explique ce sentiment des populations d'outre-mer envers la métropole, où vraiment on sent qu'il y a une distorsion et que pratiquement les gens de l'outre-mer qui vivent dans ces territoires en veulent et se sentent différents des Français de la métropole? Comment en est-on arrivé là?
D'abord, les gens d'outre-mer sont différents des Français de la métropole, parce qu'ils ont une vie qui est différente. Ils sont français. Il y a autant d'Antillais en France métropolitaine, d'ailleurs, qu'aux Antilles. La différence qu'il y a entre la Nouvelle-Calédonie et puis les Antilles françaises, c'est qu'aux Antilles françaises, il n'y a pas de peuple autochtone, puisqu'en fait, les Indiens Arawak ont été chassés par les Indiens Caraïbes, et les Indiens Caraïbes, ensuite, ont été regroupés et positionnés sur l'île de la Dominique. Ouais. Et donc, tous les Antillais de Guadeloupe et de Martinique sont des gens importés. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette défiance? Parce que la capitale reste Paris. Et quand vous demandez à un petit Antillais où est Roseau, il vous dit « je ne sais pas ». Et vous lui demandez « où est Paris ?», il vous dit « c'est en métropole ». Alors que Roseau est à 60 km de Pointe-à-Pitre. Et donc il y a un manque d'éducation à la géographie locale et à ses racines locales. Pendant très longtemps, on a fait chanter aux petits Guadeloupéens nos ancêtres les Gaulois. Donc, si vous voulez, ils ne sont pas forcément Gaulois.
Ouais, je vous ferai écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas tout à fait tort. Ce sera au retour de la pub. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va parler évidemment du Covid de Jean Castex. Jean Castex testé positif. On va en reparler dans un instant. Je voulais vous faire écouter, puisqu'on parlait des Antilles, ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'était ce matin. Dans le zapping, Gilles Gansman avait sélectionné ce son.
Ce qu'on est en train de faire en Guadeloupe ne me convient pas du tout. Parce qu'on est en train de pousser à feu et à sang les Guadeloupéens, qui sont des gens d'une patience qu'aucun d'entre vous ne peut imaginer. Imaginez-vous ce que ça vous ferait d'avoir pendant 3 ou 4 ans pas d'eau courante garantie quand vous ouvrez le robinet. Sur toute l'île, c'est ce qui se passe. Ça fait des années que ça dure et on n'y change rien. Qu'il y a un sous-encadrement médical, qu'il y a un sous-encadrement dans l'éducation nationale. Pourquoi ? C'est pas des compatriotes ?
Ouais. Ça va être un vrai problème pour l'élection présidentielle.
L'inégalité de traitement du citoyen.
C'est ce que disait, ça risque d'être au cœur effectivement de la campagne. De la campagne, surtout s'il y a une contagion.
Si on laisse Elie Domota, comme l'a sous-entendu M. Damécourt, prendre les choses en main, tous les gens qui ont travaillé avec des excroissances françaises d'organismes publics là-bas, vous disent dès que l'UTG met le pied quelque part et se saisit du dossier, c'est la catastrophe. Tout le monde commence à avoir peur qu'ils sont extrêmement violents. Ils sont extrêmement violents.
Xavier, donc un auditeur qui nous a appelé hier et qui a vécu aux Antilles, il dit il y a très peu de connexions entre les Antilles françaises et les autres îles et les rares existantes sont très, très chères, raison pour laquelle les petits Guadeloupéens ne connaissent pas Roseau ou Sainte-Lucie. C'est vrai qu'il y a très peu de connexions entre les îles. Oui, Yves Damécourt.
Il y a peu de connexions et les connexions, quand elles existent, sont tuées dans l'œuf par la CGTG et l'UGTG, qui en fait ne veulent pas qu'il y ait de... Il y a plein d'exemples de, de, de gens, d'entrepreneurs antillais qui ont mis en place des liaisons et qui ont finalement été obligés de les fermer parce qu'elles ont été prises en otage, parce que voilà, c'est très compliqué. Alors les pannes d'eau, elles existent en Guadeloupe, c'est vraiment emblématique de la Guadeloupe. Les pannes d'électricité aussi, hein, on se retrouve avec des jours sans eau, des jours sans électricité. Et je rappelle quand même que Elie Domota est fonctionnaire, donc je ne sais pas à quel état on a affaire. Ouais. Et Elie Domota est un employé de Pôle emploi, il est sous-directeur de l'agence Pôle emploi de Mornalo. Et donc, et aujourd'hui, l'UGTG, ce sont pour la plupart des gens qui sont fonctionnaires et qui d'ailleurs ne sont pas en dessous du seuil de pauvreté, hein, puisqu'on sait bien que les fonctionnaires aux Antilles ont une prime d'éloignement, même ceux qui sont originaires de l'île. Et qu'ils ont ensuite un impôt qui est moins élevé puisqu'ils sont éloignés alors qu'ils sont originaires de l'île. Donc voilà, il y a un système qu'il faudrait revoir, mais tout ça est brûlant et personne ne s'en occupe en fait. Nos dirigeants s'en occupent quand ils sont en campagne électorale.
Oui, c'est ça.
Mais les choses ont bien changé. Du temps de Giscard, il y avait 80% des Antillais qui votaient et souvent ils votaient pour le président sortant.
Chirac aussi, il faudrait regarder. Chirac aussi.
Ouais. Ouais, non, il faudrait regarder les résultats des dernières élections, mais à mon avis, le taux de participation aux Antilles est plus proche de 20% que de 80% aujourd'hui. Hein.
Alors, pour aller un peu plus loin, ce qui est intéressant, Patricia c'est Bani. Qu'il y a des sujets qui s'invitent comme ça dans la campagne électorale. Éric Zemmour a mis l'immigration au cœur de la campagne. Tout le monde s'en est emparé, à droite, à gauche, au centre. Bon, maintenant, on a les territoires d'outre-mer. Et vous allez voir, parce que c'est logique, que tous les candidats vont y aller de leur couplet, de leur promesse, de leur parole. Et je pense que les populations là-bas, ben, finalement, n'adhéreront plus à rien, parce que ces discours existent depuis tellement d'années et qu'il ne se passe rien de nouveau. Mais ce sera le nouveau sujet des prochaines semaines des candidats à l'élection présidentielle.
Allez, on peut peut-être espérer... Je
voudrais juste vous dire, pour terminer...
Allez-y, Yves Damécourt.
Cet été, j'ai revu un vieil ami antillais qui a quitté l'île parce qu'il avait peur pour lui et pour sa famille. Et c'est quelqu'un dont la famille est là-bas depuis le XVIIe siècle. Donc, voilà.
Bah, c'est aussi, oui, mais c'est le cas. C'est vous qui le disiez, je crois, un petit peu partout aussi dans les quartiers. Enfin, c'est le chaos. Le chaos est quand même dans un certain nombre d'endroits.
Après, quid des puissances étrangères qui peuvent être derrière aussi des mouvements de soulèvement, des informations. C'est le camp Calédonie, par exemple.
Exactement. Mais bon, on peut espérer que cette tension, cette violence, justement, puisse que les politiques se saisissent de cette situation dans les Antilles pour peut-être cette fois-ci faire des propositions fortes en termes d'une politique forte qui enfin puisse apporter les réponses à ces difficultés.
Allez-y Yves, et puis on finit sur ce sujet.
Le beau projet, le grand projet, puisque aujourd'hui Cuba s'ouvre, puisque Saint-Domingue se développe, parce qu'Haïti a besoin de nous. Il y a en fait un collier d'îles qui sont sous la protection pour les unes de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, elle était anglaise encore dans les années 80, pour les autres des États-Unis, pour les autres de l'Europe, parce qu'il y a des îles qui sont néerlandaises, des îles françaises, etc. La grande idée, ce serait de réunir tous les gens qui ont des relations avec ces îles de la Caraïbe et de créer un projet commun sur l'arc caribéen. Voilà, c'est ça le beau projet. Mais c'est un projet international et beaucoup de gens ont intérêt à ce que ça réussisse.
Ouais. Alors, Jean Castex positif, il a été testé positif au Covid, relâchement du Premier ministre, c'est ce que disent les réseaux sociaux, des vidéos le montrent sans masque, serrant des mains, en particulier au congrès des maires de France, mais il a été contaminé au Covid par sa fille de 11 ans, donc il est isolé pendant une dizaine de jours, il avait été vacciné deux fois, donc évidemment, ça la fout mal, pour parler un peu trivialement.
Alors, en termes d'image, et je parle sous le contrôle de mon ami Jacques Isabello, qui est communicant comme moi. Alors, le problème, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On joue la transparence, on le dit, on explique, et je pense que de ce côté-là, il
a
eu raison.
Ça a été plutôt bien géré.
Et c'est bien géré. Maintenant, le problème aussi, c'est que tous les anti-vaccins, tous les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, vont se dire, mais ça sert à quoi? Il a eu ses deux doses, il a été vacciné, donc ce vaccin immunise pendant combien de temps, combien de mois? Et là, la campagne vaccinale du gouvernement est détruite en un instant avec une annonce pareille. Donc, ça va être très compliqué à gérer.
Alors que ce qu'on dit, c'est quand même que le vaccin n'empêche pas la transmission, qu'il n'empêche pas la contamination, mais que les formes graves sont quand même moins fréquentes. Ça reste entendable.
Concernant le relâchement que vous avez évoqué, Valérie, c'est vrai que moi, j'ai vu les images, comme tout le monde.
Bien sûr.
Ils ne portaient pas de masque.
Non.
Personne ne portait de masque. Alors nous, on nous demande de porter des masques dans les lieux publics et partout. Et eux n'avaient pas de masque. Le problème, là, c'est l'exemplarité qui n'a pas fonctionné en termes de communication politique.
Oui. Alors, que dit l'autre communicant?
C'est vrai qu'on devrait peut-être s'intéresser un peu plus au Congrès des maires, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres, peut-être un peu moins connus que le Premier ministre.
Ah oui, qu'il y avait
donc,
aussi...
la campagne autour de la désignation du président maintenant élu à la tête de l'AMF a dû donner lieu... à des rencontres assez classiques et traditionnelles pour des gens qui sont tactiles, pour des gens qui vont conquérir un auditoire, et ça passe par des méthodes assez traditionnelles. Après, bon, pour compléter ce que dit Patricia, je suis complètement d'accord avec elle, c'est de se dire jusqu'à quel point ça ne défend pas un peu la posture d'Emmanuel Macron, qui ne veut plus entendre parler de la moindre réforme, de continuer à entretenir cette musique autour du virus. Valérie, vous le disiez, rien de nouveau. Tout ça, on le sait qu'on peut l'attraper. Maintenant, on a compris quand même qu'en l'attrapant, on allait rester 3 jours chez nous, 10 jours chez nous, et qu'on n'allait pas en mourir, ce qu'on ne savait pas auparavant. Et cette notion de peur qui empêche pendant les 6 prochains mois, de faire quoi que ce soit, je me dis à qui sert le crime, hein? Et c'est vrai que ça, je trouve ça un petit peu...
C'est-à-dire, je comprends pas.
Il faudrait qu'on arrive, comme le disent certains, un peu à sortir de ce sujet. Maintenant, on a des vaccins. On a des antiviraux qui commencent à s'installer. On a plusieurs milliards de personnes qui ont été vaccinées. Et parmi ces gens-là, toujours pas... de morts ou de maladies, de nouvelles maladies qu'on aurait divulguées. Donc on va devoir vivre avec ce satané virus et l'attraper de temps en temps comme tout un tas de cochonneries dont je me garderai de donner le nom pour éviter les images associées à ça. Mais d'en faire à chaque fois un sujet anxiogène pour la population, des centaines d'heures et des breaking news...
on n'est pas les seuls, il y a des pays comme l'Autriche, l'Allemagne...
Mais regardez, c'est définitivement enterré la réforme des retraites. On ne parle pas du budget de l'État qui va être rejeté par le Sénat alors qu'on est endetté à 125%, et pour la situation des jeunes, pour la réindustrialisation du pays, etc.
La santé passe avant les éventuelles réformes.
Premier sujet de préoccupation des Français.
Justement, c'est ce que je dis sans doute un peu maladroitement, c'est qu'on n'a plus de sujet de santé publique. Le Premier ministre a chopé maintenant, je vais le dire, une grippette, parce que maintenant c'est une grippette.
Grâce au vaccin.
Et il touche, on discutait tout à l'heure hors studio en se disant qu'il y a sans doute tout un tas de gens qui font machin, qui ont le Covid et qui se disent on verra bien ce qui va se passer. Pardon, moi je ne suis pas un politique, donc je vous dis la vérité de ce qu'on se dit en dehors des studios. Ça n'est qu'une grippette. Qu'on en fasse toujours autant,
qui sont quand même aujourd'hui en réanimation. Enfin,
Il n'y en a pas tant que ça,
vous savez ça mieux que moi,
J'ai écouté le docteur Blachier, qui est quand même venu sur les plateaux.
Il a quand même dit avoir des conneries
aussi. D'avis, oui, voilà.
En tout cas, ce matin,
Valérie,
ce matin, il a dit qu'il n'y a pas de quoi être alarmiste.
Il l'avait déjà dit aussi avant la troisième vague.
Et écoute, d'après ce qui se dit et d'après des entourages qu'on peut avoir, etc., il n'y a pas saturation des hôpitaux. Que la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, il n'y a plus assez de personnel soignant, puisque déjà, on n'en avait pas assez. Oui. On avait déjà une pénurie et qu'aujourd'hui, on en a encore perdu. Donc, c'est ça la crainte. Après, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut peut-être vivre avec le virus maintenant, parce que je pense que À un moment, c'est le trop-plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vraiment, on est à saturation et qu'il faut aussi qu'on puisse acquérir une immunité naturelle. C'est ce que disent aussi les médecins. Après, je voudrais revenir sur le Premier ministre parce que c'était assez quand même incroyable. C'est qu'une semaine avant, il a rappelé qu'il faut absolument respecter les gestes barrières. Et puis, on entend des maires qui sont prêts à remettre... les masques à l'extérieur, etc. Enfin, bref. Et puis, paf, ça lui tombe sur... On le voit, en plus, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est qu'il serrait bien les mains. C'est pas semblant.
Blachier n'est pas docteur, hein, c'est ce que me dit un médecin.
Il est quoi ? Non, il est pas médecin ?
Il n'a pas fait sa thèse de médecine.
Faut le dire au plateau de télé qu'il l'a dit.
Un autre médecin me dit que dans un hôpital, sa réanimation est pleine de 50% de Covid. Donc, ce sujet de la santé est toujours très compliqué quand même à commenter il est épidémiologiste, mais il n'est pas forcément.
Il n'est pas docteur en médecine.
Il n'est pas docteur en médecine.
Il est statisticien, donc on ne le présente pas comme ça
voilà. Sur les plateaux.
Mais Isabelle nous dit, Valérie, je suis désolée, tous les cas positifs autour de moi sont des personnes vaccinées, chercher l'erreur. Mais toutes les personnes en réa ne sont pas vaccinées. Il n'y a pas de forme grave, ou alors sur des gens qui sont immunodéprimés, avec des comorbidités, les gens en réa qui ont le Covid ne sont pas vaccinés. Je ne peux pas vous dire autrement les choses différemment.
Et puis, les lits de réa, il y en a très peu dans les hôpitaux. Hein. On arrive vite à saturation, hein. 4-5 lits, parfois par hôpital. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les personnes de plus de 65 ans fassent le rappel, parce qu'en fait, c'est un rappel, ce n'est pas une troisième dose. Les deux premières doses, c'est un vaccin et il faut le rappel. Oui. Je n'y connais rien, on m'a dit vous le dis. Et puis, il faut que les personnes qui présentent des fragilités puissent aussi
faire ce rappel. Pardon, Naïma, mais si après la troisième dose, ça ne fonctionnera plus du tout dans l'esprit des Français, cette prévention.
Bon, on marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous, nous parlions de Jean Castex positif au Covid qui nous a entraîné sur une longue discussion autour de la vaccination. Évidemment, si 100% des gens sont vaccinés, il y aura forcément des gens vaccinés en réanimation puisque le vaccin n'est pas efficace à 100%. Mais pour l'instant, de ce qu'on peut nous dire, il y a quand même les non-vaccinés sont majoritaires et les autres sont des immunodéprimés ou des personnes très âgées vaccinées depuis plus de 6 mois. Yves Damécourt, vous vouliez réagir ?
Oui, moi je suis inquiet pour la campagne de l'élection présidentielle parce que on sent bien que cette cinquième vague arrive. Le gouvernement a prolongé le pass sanitaire jusqu'au mois de juillet. Il a promis qu'il n'y aurait pas besoin de pass sanitaire pour se rendre dans les meetings de l'élection présidentielle, ce qui n'a pas tellement de sens.
Bien sûr.
Si on impose le pass sanitaire pour aller au restaurant, on ne comprend pas pourquoi on n'aurait pas besoin de pass sanitaire pour aller écouter un candidat. Donc, moi, je suis très inquiet. J'étais maire de ma commune, le scrutin des municipales en plein Covid, avec une baisse de la participation de 20 points, ce qui est énorme. Si on fait rebelote avec l'élection présidentielle et que le nouveau président ou de la présidente est élu avec une baisse de la participation, tout ça, c'est un coup de canif dans la légitimité de nos élus et donc dans la démocratie et dans l'organisation du pays, quoi.
Tout à fait juste. Hein. On parle d'Éric Zemmour un peu comme tous les jours, mais en même temps, c'est un véritable feuilleton.
Aujourd'hui, il y a un vrai sujet.
Aujourd'hui, c'est un sondage Odoxa Mascaret pour la presse régionale LCP et Public Sénat. Ils se sont interrogés, alors un peu comme l'avait fait l'IFOP la semaine dernière, sur les traits de caractère d'Éric Zemmour, plus raciste, plus dangereux, moins compétent face à Marine Le Pen. visiblement, ces items, ça confirme encore une fois notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, et le polémiste enregistre également des baisses sensibles dans la plupart des derniers sondages. Visiblement, c'est peut-être ce qui précipite cette annonce qu'il visiblement voulait faire plutôt début décembre, et il semblerait qu'il l'annonce un petit peu. Alors, est-ce qu'il a lassé? Est-ce que c'est son plafond de verre? Est-ce que c'est un ralentissement? Il peut redémarrer? Patricia Abal.
Moi, je pense qu'il a tenu bon dans sa popularité quand il a mis l'immigration sur la table, et parce que c'est un vrai sujet, que les Français sont inquiets pour des tas de raisons. Et tout le monde s'est emparé de ce sujet, donc il a pris une sorte de leadership dans la campagne sur un sujet. Maintenant, le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il est parti dans une violence. Et Marine Le Pen baisse dans les sondages au moment où elle se banalise et où elle est moins violente. Et on se dit, est-ce qu'en politique, l'extrême violence est payante ou non? Et là, on voit que ce n'est pas payant. Maintenant, il y a une sorte de faux plat. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Je pense que lorsqu'il va faire son annonce de candidature, et lorsqu'il va y avoir les militants au Zénith le 5 décembre, en plus le lendemain de l'élection du candidat des Républicains à la présidentielle, je pense qu'il peut avoir une remontée. Simplement, il s'est radicalisé lui-même sur des sujets où il devient fou. Et on parlait de sa dernière interview, mais notamment sur les femmes, il est devenu fou. Et pour moi, déjà, sur les prénoms, c'était une erreur. On pouvait le dire autrement, on pouvait être d'accord avec lui, mais il est allé trop loin. Et les excès d'Éric Zemmour seront peut-être des excès qui, justement, feront qu'il ne sera certainement pas au deuxième tour et peut-être pas aussi bien placé dans la campagne.
Oui. Jackie, Isabello.
Un homme politique, c'est deux choses, c'est de la parole et de l'action. Sur la parole, il a imposé un thème et tout le monde s'est rallié finalement à son fier panache. Là où on sent qu'il a un peu du mal, c'est à montrer qu'il peut être dans l'action. Alors l'action performative par le discours, mais pour parler de la situation des gens, du pouvoir d'achat, de l'éducation, il reste, et c'est ce qu'il a fait hier sur France Info, il reste un analyste et un commentateur, comme le disait Marine Le Pen ce matin. Quand il essaye d'expliquer à son auditoire, qui est soit en train de se raser, pensant à la prochaine élection présidentielle, ou en train de se laver les dents et de dire aux enfants de se dépêcher, de leur expliquer l'opposition entre bloc élitaire, bloc populaire, citant des sondeurs et faisant de l'analyse politique digne de René Raymond ou de Monsieur Siegfried, je ne suis pas persuadé qu'il soit véritablement dans cette conquête d'un électorat assez large. Et là où je modérerais un peu le propos que je partage toujours avec joie quand Patricia le dit, c'est que Donald Trump, finalement, a balayé toutes les règles. Il a fait une campagne violente du début à la fin, mais c'est vrai qu'il est resté en tant qu'électeur de base. Du type qui est énervé par ceci, par cela, du type qui est énervé par le fait que, aujourd'hui, une femme va prendre plus de place. Que ce soit vrai, pas vrai, intéressant, pas intéressant, il est resté l'électeur de base.
Zemmour, il a Zemmour du mal. Peut y arriver comme
il
ça.
Redevient cet intellectuel. Il a du mal à se candidatiser. C'est très très mou comme néologisme. Et s'il veut arriver à passer cette deuxième étape, il faut qu'il reste un homme politique en devenir.
Moi, j'ai l'impression aussi que Zemmour a profité aussi de l'effacement de la droite classique, à un moment qui tâtonnait. Et aujourd'hui, la droite classique, elle revient en force avec ses primaires qui se passent bien. Moi, j'ai regardé le troisième débat qui a été vraiment de très bonne tenue. Aujourd'hui, tout cet électorat qui peut-être était intéressé par lui, il pouvait aller vers lui, aujourd'hui, il est en train de revenir à droite. Et cette dynamique, on voit bien qu'il y a une nouvelle dynamique, notamment avec les 70 000 nouveaux adhérents. Et moi, j'ai le sentiment vraiment que la droite revient et du coup qu'elle le ringardise, si je puis dire. Et que justement, il dégringole parce que la droite revient et revient sur des sujets que lui-même avait lancés.
Alors, Yves Damécourt.
Moi, je partage un petit peu tout ce qui a été dit. Zemmour a émergé à un moment où les Républicains étaient dans le marigot, c'est-à-dire qu'ils avaient décidé ni de la façon dont ils allaient choisir leur candidat, ni de qui serait candidat, primaire ouverte,
progrès,
etc. Oui, oui, c'est tout. Voilà. Donc, forcément, il a pris une place. Ensuite, il avait fait 2 ans de CNews pendant, avec 1 heure chaque soir devant 1 million de téléspectateurs. Hein, donc, c'est tout ça, ça marque
des adhérents.
Et en plus, à un moment où Marine Le Pen était en train d'adoucir
son discours
en disant « liberté, liberté chérie », etc. Elle oubliait ses discours historiques et emblématiques. Et donc, il a pris la place qu'on lui donnait. Il y avait le vide ailleurs, et donc il a pris la place.
Mais là,
donc,
c'est Marine Le Pen, pour l'instant, qui récupère. Hein. C'est elle qui a récupéré 10 points. Donc, c'est elle, pour l'instant. Les Républicains, ils sont pour l'instant
dans l'enfer. Les sondages du mois de novembre, historiquement et depuis le début de la Ve République, n'ont jamais donné.
Absolument, on est d'accord.
Alors pas toujours, parce qu'il y a quand même. On a montré que Hollande et Sarkozy étaient en tête, ils sont restés en tête. Ça, c'est. Enfin, je le précise juste parce que c'est vrai que ça tourne un peu et il y a des sondeurs qui ont dit non, attendez, notamment Frédéric Déby qui a remis l'église au milieu du village. Ce qu'il faut rappeler aussi aux gens, parce qu'on a beaucoup tapé sur les sondeurs, donc on peut essayer d'expliquer un peu aux gens comment ça marche et leur donner, qu'aujourd'hui, une campagne, c'est une campagne. Dance floor de boîte de nuit. Alors, comment ça se passe sur le dance floor du boîte de nuit? Vous avez un DJ et il enchaîne de la musique de manière remarquable. S'il loupe son enchaînement, les gens sortent de la piste. Ouais. Aujourd'hui,
et
le sondage,
revenir,
vous
pas
cliquez.
Évident.
Aujourd'hui, quand vous sondez, vous êtes sondé par clic. Avant, quand quelqu'un vous appelait et il vous disait, vous votez pour qui? Pour verbaliser. Et des psychologues ont parlé de ça, de dire, je vote pour Marine Le Pen. C'était un vrai passage. Il y avait un acte. Aujourd'hui, en cliquant, à chaque semaine, on peut décider de quitter le dance floor et donc de passer à un autre candidat. C'est la magie d'Internet.
D'ailleurs, dans une autre boîte.
Merci
à tous les quatre.
Excuse
à André Bercoff pour le retard. C'est de la faute de Jackie Isabello. On se retrouve demain.